Surpris par la nuit.
Nous avons rendez-vous avec Philippe Solers, qui décrit une autre façon d'être et de vivre dans son nouveau roman publié chez Gallimard, Passion fixe, que le narrateur, sous le contrôle sans doute de l'auteur, résume ainsi pour faciliter la tâche du critique. Les repères historiques ne manquent pas dans ce curieux récit où le narrateur va, vient, fait l'amour, paraît avoir des vertiges, s'entend très bien avec deux femmes de caractère, a des extases intermittentes, rédige des notices pour un éditeur scientifique, lit, écoute de la musique, se promène, dort, essaye de semer ce qu'il appelle les agents de la surveillance planétaire, les marchés financiers, entre autres commentaires, celui-ci, l'entreprise est peut-être plus profonde et pernicieuse qu'elle n'en a l'air. Dérisoire, c'est entendu, peu susceptible d'un succès populaire, mais attention, ce type a l'air obstiné, on ne sait quelle vitamine asiatique l'anime, le mieux serait d'ailleurs de ne pas en parler du tout. Avec Philippe Solers, pourtant, jusqu'à minuit, nous tenterons de rompre la loi du silence. Il y a quelques minutes, Philippe Solers, tout en lisant mon chapeau, je me demandais comment j'allais commencer cette émission, cet entretien avec vous. En fait, il y aurait beaucoup de débuts possibles. Je ne sais pas trop lequel choisir. Je me demande si toute l'émission ne devrait pas être une série de débuts. Il y en a un, en tout cas, qui m'a été donné par la relecture de L'année du tigre, votre journal de 1998, publié au Seuil et qui vient de reparaître chez Gallimard dans la collection Folio. À la date du 14 avril...
Dans la collection Point Seuil.
Ah oui, la collection Point, pardon. Oui, Folio, c'est un autre...
Mais... ne vexons pas les éditeurs.
Oui, oui. Folio, c'est Casanova. Casanova l'admirable. Bon, publié tellement de livres qu'on finit par s'y perdre. Donc, le 14 avril, dans l'année du tigre, en Point Seuil, on peut lire cette notation... On ne devrait jamais commencer une conversation avec quelqu'un sans lui demander s'il souffre. Mmh. Et vous ajoutez, on n'entre jamais dans la douleur d'un autre, sauf sadisme, et encore, dans son plaisir parfois, plaisir, douleur, les seuls problèmes philosophiques sérieux.
Mmh. Ben, je vous demande si vous souffrez.
Oui, mais c'est avec vous que je parle.
Oui, mais c'est moi qui formule
là-dedans. C'est pas vous qui parlez avec moi.
Si. Je suis en train de parler avec vous, et en effet, je trouve que c'est une demande...
C'est une bonne question.
Ouais. C'est une demande légitime, on devrait sinon la formuler, du moins essayer de deviner ce qui est, dans quel état de souffrance ou de douleur physique se trouve l'autre. Et évidemment, la conversation qui s'ensuit ne peut pas être tout à fait la même si vous sentez, parce que vous le savez déjà, ou si vous devinez que quelqu'un se trouve en train de souffrir d'une rage de dents, à peine surmontée, d'une sciatique profonde, un mal de dos ou de vertige combiné, etc., etc., etc. La souffrance morale étant d'ailleurs aussi quelque chose d'aigu, mais je crois qu'en effet c'est la souffrance physique qui doit être le premier souci. Je crois qu'elle est inutile, qu'on s'acharne par exemple souvent à maintenir des gens en vie. C'est un sujet qui vient dans l'actualité assez souvent. Faut-il ou non, même à la demande de quelqu'un qui n'en peut plus de douleur, accéder à sa demande d'arrêter cette torture. Vous rappelez le mot célèbre de Kafka qui n'en pouvait plus à son médecin, si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin. Il m'est arrivé d'avoir des souffrances physiques extrêmement violentes, donc avec intervention nocturne du médecin, et je vois la gêne, enfin la réticence souvent de donner le produit qu'il faut, c'est-à-dire disons la morphine, n'est-ce pas. Il y a ces petites mallettes qui circulent dans la nuit dans une grande ville avec des hôpitaux qui clignotent de façon violette un peu partout avec des gens qui ont très très mal, et lorsque on demande parce que vraiment on n'en peut plus, qu'on a envie de se cogner la tête contre un mur ou de se jeter pour en finir, lorsqu'on demande l'intervention de la morphine, souvent il y a comme une sorte de d'hésitation du médecin, enfin sous prétexte, n'est-ce pas, que vous deviendriez à partir de là morphinomane. Il y a eu un colloque sur la douleur justement auquel j'ai participé exprès pour ça, c'est-à-dire vraiment les cancers en phase terminale, etc. Je crois que c'est très important pour de définir bien les choses au départ, parce qu'après, vous savez, il y a tellement de bavardage et de psychologie inutile qu'il faut aller droit à la sensation. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la douleur ne pourra pas non plus parler du plaisir, par définition. Ce sont les deux bords, voilà. Donc, il faut savoir si on est en train de souffrir ou pas. La souffrance physique étant la chose, à mon avis, la plus respectable du monde. Une des rares choses que je serais amené à respecter.
Oui. Mais il y a d'autres types de souffrances pour un écrivain. Je ne parle pas de l'angoisse devant la page blanche.
Oui,
mais
ça, c'est pas mon genre. Oui.
Non, enfin, encore que...
Non, je demande devant la page blanche, je sais pas.
Il n'y a pas de page blanche, oui. Mais il y a peut-être un peu de souffrance parfois. Et je me demande si, par exemple, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, dans les librairies où on organise des signatures, l'écrivain ne souffre pas aussi.
Là, faut pas exagérer. Je dirais plutôt que c'est souvent un sentiment d'ennui, de temps lourd, d'accablement, de temps perdu. Et lorsqu'on publie un livre, bien entendu, on est loin de la page à écrire. Et pour un écrivain, s'il n'a pas écrit un petit peu suffisamment dans une journée, c'est comme s'il n'avait pas vraiment respiré. Donc c'est en effet plutôt ce qui m'arrive ces jours-ci, mais ça va revenir très vite.
Il y a un spectacle de la souffrance qu'il faut savoir donner avec art. Et justement, dans l'année du tigre, un peu plus loin, je suis tombé sur une phrase de Nietzsche que vous citez, intitulée « Savoir souffrir en public ».
Oui, c'est pour désarmer un petit peu l'adversaire. Il est vrai que la ruse consiste quand même, de temps en temps, à calmer la conscience de l'autre en lui faisant même une petite simulation de souffrance. Pourquoi ? Parce que c'est très, très... Là encore, on tombe sur ces questions fondamentales, c'est-à-dire la souffrance des autres. J'ai dit que moi, elle me paraissait quelque chose à quoi il ne fallait pas toucher, mais en revanche, elle est très appréciée. Enfin, c'est-à-dire, enfin, il souffre. Il y a quelques articles là sur Passion Fixe qui m'amusent, parce que il y a ceux qui voudraient absolument déchiffrer dans ce livre une inquiétude, une terreur, une angoisse, quelque chose comme le gouffre qui m'habiterait, alors que je passe mon temps à décrire le contraire, c'est-à-dire l'affirmation et la positivité la plus intégrale.
Oui, mais à force de décrire, on finit par laisser un doute. On sait bien que
il faut
le clou.
Il faut dire que quelqu'un qui orchestrerait son existence comme un plaisir continu provoquerait probablement un agacement, enfin une colère considérable chez ses semblables supposés.
Enfin, pour Nietzsche, la souffrance qu'il faut savoir donner en public
oui.
est destinée aussi à calmer,
c'est
les
ça.
Envieux et les méchants.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il faut avoir l'air désarmé, angoissé, embarrassé. Il faut avoir l'air de douter. Mais enfin, même si c'est pas le cas, il faut jouer un peu jouer cette comédie si on veut qu'il n'y ait pas cette révolte immédiate que ressentent les humains. En effet, devant quelqu'un qui c'est très mystérieux, devant quelqu'un qui irait bien, tout simplement, hein, pour qui tout tournerait plutôt bien.
Mais franchement, les envies,
c'est méchants, mal vu, quoi.
Ne se prive pas de l'être à votre endroit, hein, vous le savez bien. Et dans l'année du tigre que je cite depuis le début de cette émission, vous le dites vous-même. Par exemple, ce passage là qui est de décembre 98. Pour la plupart des universitaires, je suis mort après 68, mais je vois que dans des histoires plus ou moins officielles de la littérature française, je vis encore en 1973, grâce à la publication de H et au colloque de Cerisy sur Artaud et Bataille. Ensuite, je disparais pour ne ressurgir qu'en Renégat ou en Traître, avec la publication de Femmes en 1983. Là, le glas est définitivement sonné. Et je n'ai donc rien publié depuis 15 ans. Pour avoir une telle vision falsifiée de l'histoire, il faut de l'estomac. Les militants en ont. Oui. Et vous annoncez la liste de vos prochaines publications. Passion fixe, donc le roman dont on va parler tout à l'heure. La guerre du goût 2, avec des textes sur Cézanne, Bacon, Hemingway, Picasso, etc. Plus, sans doute, dites-vous, deux ou trois surprises.
Et je termine en disant quoi ?
Désolé.
Sorry.
Oui. Les surprises alors ?
si je les énonce maintenant, ça n'en sera plus, mais il y en aura. Donc oui, c'est ça. C'est-à-dire, il est étrange que... Et je me prête aussi à ce malentendu, bien sûr. Il est étrange qu'on fasse d'un écrivain quelqu'un qui n'écrirait, qui n'aurait rien écrit et rien publié. C'est étrange. Il faut alimenter cette passion dénégatrice.
D'autres, peut-être moins universitaires, comme Roland Barthes, en 1979, tentaient pourtant une sorte de
oui,
rappel à l'ordre.
Oui, c'était déjà là. Oui,
mais hein? N'oublions pas Solers.
Oui, si n'oublions pas Solers, on ne dit jamais qu'il écrit. C'est drôle. Barthes, qui était un sociologue extrêmement subtil, averti qu'il faut relire pour ça, notamment Mythologie, par exemple. Ne serait-ce que ce livre-là, eh bien, il avait déjà deviné qu'il allait se passer avec moi quelque chose de très étrange, comme une sorte de surestimation de l'image et de dénégation de l'écrit. Voilà. Mais après tout, les livres s'entassent. Et voilà.
Et les gens méchants et envieux ne vous empêchent pas d'être tranquilles et heureux dans votre fort intérieur, au point certains jours, à en croire votre journal, de vous complaire dans l'admiration des rosiers dont vous comptez les fleurs. D'autres jours, du spectacle de la pluie, du tonnerre, de la foudre au-dessus des toits, et d'autres jours encore, de voir tomber des phrases de romans d'une écriture presque automatique.
Oui. Il y a beaucoup de différences entre ce qu'on paraît et ce qu'on est. Vraiment. Il y a des gens qui vous diront, Solers, il est incapable, c'est un infirme de la sensation, il est incapable. J'ai lu ça récemment dans un journal de quelqu'un qui a publié ses écrits, enfin c'est son journal. C'est un infirme de la sensation, il est incapable de se tenir une heure sur une plage ou de méditer une heure en forêt ou n'importe quoi, des conneries de ce genre, vous voyez. Bon, c'est une sorte de Parisien typique, de dandy, de superficiel. Donc je n'aurai pas le sens de la nature. Voilà. Ce qui prouve qu'aucun livre n'a été ouvert, parce que vous avez les tartines de description d'état de sensible dans la nature. Mais c'est pas grave, tout ça.
Donc quand,
ce qui est écrit, mais on ne peut rien faire contre ceux qui se projettent dans votre image, si je peux dire.
Quand on parle de vous, et on parle beaucoup de vous, c'est rarement de l'écrivain dont il est question.
C'est ça. Et puisque vous citiez Nietzsche, un beau mot de lui que j'aime beaucoup, c'est... on parle beaucoup de moi, mais personne ne pense à moi.
Il faut dire que vous avez pas mal brouillé les pistes.
Il y a intérêt.
On vous a assez reproché de,
oui,
de changer votre fusil d'épaule.
Il y a intérêt à provoquer des reproches successifs et changeants, d'ailleurs.
Mais on a opposé les livres que vous avez publiés au Seuil, puis ceux que vous avez publiés chez Gallimard, à partir de Femmes. Et Philippe Forest, qui vous connaît bien, qui a préfacé la réédition
Lui, il a lu un peu, oui.
de Vision à New York, qui est un historien de tel quel aussi, parle d'une solidarité de fond unissant justement ces deux séries de livres, c'est-à-dire Femmes et Paradis, pour résumer, H et Portrait du joueur aussi bien, et les autres romans qui ont suivi, Le cœur absolu, Les folies françaises, Le Lys d'or, La fête à Venise, Le secret, Studio. Studio qui est un livre que vous aimez bien.
Il y a 3 ans, oui.